liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 19, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Donc au sommaire, aujourd'hui.
Aujourd'hui, une bonne revue de presse. Il doit y avoir une vingtaine d'articles en tout et 8 qu'on a remontés, dont on va parler aujourd'hui. Donc on va parler de la Commission européenne et d'une boîte à outils en libre, de Firefox et Windows. L'affaire Java Android. Alors le PQ, il n'y a rien de tel, non, c'est le Parti québécois. On va parler d'Ubuntu, qui serait plus intuitif que Windows. Le CMS Day et une présentation sur justement les outils de gestion de contenu pour les entreprises. Stallman qui va faire de l'exorcisme en Tunisie, ça c'est fun. Puis finalement, une petite réflexion sur le programme de Hollande et du numérique de Ludovic Penet, qui est assez intéressante.
Silicone.fr Optimis, boîte à outils open source pour déployer le cloud par Yves Grandmontagne. Là, on a fait péter le buzzmeter, il y en a beaucoup dans le même titre. Donc, de quoi s'agit-il exactement?
Ouais, alors j'ai pas tout compris, mais ce que je vois, c'est surtout c'est l'Europe et les institutions européennes qui font du libre, alors au niveau du cloud, et alors ils proposent. Alors, on a essayé de décrypter un petit peu à part, mais on n'a effectivement pas tout bien en tête. Il semblerait que c'est pour évaluer ce que les fournisseurs de services de cloud offrent et aussi permettre de choisir ce qu'on veut prendre dans les différentes offres. Donc c'est un outil qui permettrait justement de décliner les offres techniques du cloud computing.
À la fois de les construire et de les choisir, donc à la fois pour le fournisseur et pour le client. Donc l'idée générale, c'est de suivre 4 facteurs. Donc c'est un acronyme qui s'appelle TREC, donc Trust, Risk, Eco-efficiency et cost, donc c'est en anglais, hein, on est au niveau de l'Europe, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas bien compris, parce que c'est au niveau européen, et donc ça nous dépasse, on n'est pas assez intelligent. Donc manifestement un truc qui a été lancé par la commissaire européenne Nelly Kroes, dont on a parlé plusieurs fois, qui avait notamment pas mal déçu du côté de la quadrature du net, en s'asseyant un petit peu sur les principes de neutralité, etc. Là, ça fait suite à consultations menées par l'Union européenne sur le cloud computing, avec son côté voilà, innovant en pointe et ce genre de choses. Donc manifestement, tout un programme qui est destiné à améliorer la qualité et le niveau des offres qui sont faites en Europe.
On ne sait pas encore quelle licence sera utilisée, mais s'ils disent que c'est du logiciel libre, ce sera déjà pas mal.
L'informaticien Firefox interdit sur les futurs matériels Windows, ARM, Mozilla réagit. C'est un article de Emilien Ercolani.
Alors, je crois qu'on dit ARM, hein. Vraiment là, c'est pas sérieux, c'est les microprocesseurs qu'on utilise, notamment dans les téléphones, les tablettes, et qui dépensent pas beaucoup d'énergie, hein, qui requièrent pas beaucoup d'énergie. Donc c'est assez facile de faire tourner beaucoup de choses dessus, mais généralement Windows marche assez mal, justement c'est un peu trop bourrin et lourd. Mais ils font des efforts et ils vont sortir des nouvelles versions de Windows pour tous ces petits environnements. C'est juste que, petit détail qui fait réagir Mozilla, eh bien Firefox ne fonctionnera pas sur ce nouveau Windows, notamment pour des questions d'API, de bibliothèque, tout simplement de fonctionnement qui ne sont pas assez ouverts pour qu'on puisse faire le logiciel, le navigateur comme on veut. Donc ça fait un peu hurler.
Donc Microsoft, donc ça fait des semaines et des semaines qu'on répète qu'ils ont enfin changé et que désormais ils s'étaient lancés à fond, non, bon, pas dans le logiciel libre non plus, mais au moins dans l'open source, et que bah, maintenant ils étaient amis avec tout le monde et qu'ils ont même créé une filiale pour faciliter les liens avec la communauté, tout ça. Et là, c'est absolument pas pour dégager Mozilla et un concurrent et s'en débarrasser. Et un concurrent qui fait du meilleur logiciel qu'eux, c'est pour des raisons de sécurité, bien sûr.
C'est indispensable, on ne se rend pas compte que c'est tellement dangereux de pouvoir faire tourner un autre logiciel que celui qui est prévu. Franchement, je peux comprendre, non?
Non, mais en plus, ce n'est pas le genre de Microsoft de dégager un concurrent et voilà, d'empêcher un utilisateur d'utiliser ce qu'il veut, ce n'est pas du tout dans son genre. Le monde informatique, affaire Java Android, Google demande un nouveau procès. Un article de Jean Elian. Alors là, bon, la suite du feuilleton est... grosse surprise, on va tout recommencer à zéro, c'est ça ?
Bah, en gros, il semblerait, hein, parce qu'il y a eu deux questions qui ont été posées au jury, donc là-bas, ça se passe comme ça, hein, en Amérique. Hein. Donc le jury devait dire, est-ce qu'il y a eu infraction au droit d'auteur de Oracle, hein, qui possède des droits sur Java, et si cette infraction, ou en tout cas cet usage du droit d'auteur, contrevenait au fair use, donc au droit légitime d'utilisation, il y a plein de conditions. Donc le jury a répondu oui, Google a bien enfreint les droits d'auteur d'Oracle, mais on ne sait pas, on ne peut pas répondre à la deuxième question, est-ce que cette infraction était légitime ou pas ? On ne peut pas répondre, et donc les deux questions étaient liées, il fallait nécessairement une réponse pour qu'on obtienne un résultat à ce jugement. Et donc, en tant que tel, bah, Google, ils mettent la carte maintenant un peu haut. Ils disent, voilà, non, bah, il n'y a pas eu de vrai jugement. Il faut en refaire un autre pour être sûr. Là, on repart de zéro.
Voilà, sans doute une façon de noyer le poisson, de gagner du temps, de déléguer le machin, histoire d'essayer de dégoûter Oracle. Bon, en tout cas, s'il recommence tout à zéro, moi, j'arrête de suivre le feuilleton, j'en ai marre. Hein. Et ça n'y qu'une tête. Ils n'ont vraiment aucune idée de comment on fait une bonne histoire, ces gens-là. C'est insupportable. Ledevoir.com. Du logiciel libre PQ dans Vimont par Fabien Desglises. Donc le PQ, le Parti québécois, on cesse de ricaner bêtement.
Oui, c'est important. Puis là-bas, ils ne doivent pas comprendre ces deux lettres de la même manière que dans la métropole, c'est pas possible. Bref, passons au sujet réel. Hein. C'est un petit gars qu'on a suivi, qui a fait beaucoup parler de lui au niveau des marchés publics au Québec. Donc il a fait parler de lui en mal si on est du côté de l'administration, parce qu'il a fait tomber des marchés publics et il a fait remarquer, bah, attendez, dans vos appels d'offres, vous faites des références à des logiciels propriétaires, vous bloquez donc les autres entreprises et les autres fournisseurs de services, c'est quoi ce bordel ? Donc il a été au tribunal et il a réussi à faire relancer ses appels d'offres au grand dam des administrations concernées et de Microsoft, puisqu'il s'agissait encore d'eux, il n'y a pas de raison, ça ne s'arrête jamais. Donc eh bien là, ce petit gars, donc il s'appelle
Cyril Béraud.
Voilà, exactement. Donc ce petit gars, il est en train de monter en compétences. Et là, il rentre carrément dans la politique pure et dure. Il rentre au parti.
Oh, il était quand même chef d'entreprise. Hein, et là, bah, il se lance en politique. Donc je pense que les administrations n'ont pas fini d'en entendre parler. Bon, à condition qu'il soit élu, ce qu'on lui souhaite. En tout cas, bah, voilà ce qui se passe au Québec. On en a parlé ces dernières semaines. C'est très intéressant. Il y a vraiment du mouvement. Et bah, on va continuer à surveiller ça de très près. Comment ça marche.net, Ubuntu, beaucoup plus intuitif que Windows, un article de la rédaction, un article de fond, Manu.
Moi, je l'aime beaucoup et c'est important. C'est un vrai bon article qui compare le passage d'une personne distinguée d'un logiciel propriétaire à un logiciel libre. Donc, je veux dire, que demande-t-on qui est passé de Windows à Ubuntu. Donc, alors, c'est pas très technique, c'est pas forcément très fouillé, mais c'est toute une liste de questions-réponses qui permettent de vraiment indiquer la manière dont il y a une prise en main, dont les gens changent d'optique et d'habitude, tout simplement. Donc, le passage à Ubuntu, pour le coup, il semble qu'il soit très positif. La personne qui est interviewée fait remarquer que c'est carrément plus intuitif que Windows.
Et plus joli.
Et plus joli, ce qui ne gâche rien. Mais... Donc, c'est quelque chose à montrer aux gens qu'on a autour de nous, qui sont sous du propriétaire, qui ne se rendent pas compte justement à quel point ils sont embrigadés, ils sont habitués, et cette habitude, elle est difficile à casser. Bien là, il y a des gens qui peuvent faire remonter, regardez, c'est plus joli ailleurs, c'est plus sympa ailleurs, c'est plus intuitif, vous aurez plus de facilité qu'avec votre vieux bousin. C'est juste que il faut faire passer le mot, et ça, c'est pas facile.
Non, je suis convaincu, et je ne pense pas que c'est parce que cette personne est une apprentie comédienne dont la photo est sur l'article que tu l'as choisi. C'était vraiment pour le contenu. Le journal du net, Grégory Bécu, de Smile, les CMS open source dans le cloud attirent les entreprises, un article de Dominique Philippone. Donc là encore, le buzzword metteur vient de claquer, c'est le deuxième compète dans la même revue de presse. Bon, ça fait partie de ces articles à tendance fortement publicitaire quand même.
Oui, alors là, il y a deux publicités en une. Publicité pour l'entreprise de Smile, hein, c'est une SS2L, une société de service en logiciel libre. Et puis le CMSD, donc l'image des GNU Linux, des solutions GNU Linux, des Romeleleu et autres conférences. Eh bien voilà, il faut attirer du monde et montrer, regardez, on a du contenu, c'est intéressant. Venez chez nous. Ça n'empêche, moi je trouve que l'article est intéressant d'un autre point de vue. C'est tout simplement, il parle des CMS, donc c'est les systèmes de gestion de contenu. Quand vous allez sur un site web, bah, globalement, il y a des outils comme ça qui vous permettent aux entreprises de gérer les pages web, de mettre en place des nouveaux articles, des nouvelles notices, des communiqués de presse et autres. Eh bien, il y a beaucoup de ces outils qui sont faits en libre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à utiliser du logiciel libre pour faire leur système d'information, pour faire leur site web. Et là, l'article remonte, c'est carrément important du point de vue des directeurs, alors les DIRCOM, directeurs de la communication peut-être du CAC 40, et qui sont de plus en plus nombreux à utiliser les CMS open source. Oui, hein, parce qu'on parle d'open source dans ce cadre-là, pas de logiciel libre. Mais bon, en tout cas, il y en a de plus en plus et les gens commencent à l'utiliser comme solution par défaut plutôt que de se coltiner encore des trucs payants, propriétaires, privateurs, bloquants. Il y a même pas, je ne sais même pas qu'est-ce qui existe qui permet de faire ça hein, dans le propriétaire. En tout cas, il y en a plein qui permettent de faire la même chose dans le libre. On ne va pas faire de liste parce que ce n'est peut-être pas la peine. Mais il y a vraiment il y a pléthore en fait. Et les compétences suivent. Et si les directeurs des grosses entreprises en veulent, bah, on va leur en donner. Hein, je veux dire, c'est normal.
Moi, je retiens quand même de cet article, et c'est intéressant, c'est un truc qu'on ne voit pas si souvent que ça. Le fait qu'aujourd'hui, donc, si les DIRCOM en veulent, ce qui coince, c'est plutôt au niveau des directions des services informatiques, donc la partie technique. Et ça, c'est une chose dont on parle peu, mais c'est que tous ces services existent déjà, ont des tas de compétences, Microsoft, propriétaires, etc. Et que ce n'est pas si facile de passer d'une technologie à l'autre, parce qu'il y a quand même des facteurs humains avec des gens qui ont été formés et qui, en plus, ça, vont apprécier des technos propriétaires. Et bah, tout ça, ça existe quoi.
Moi, je leur montrerai l'article précédent où cette intéressante jeune comédienne pourra leur montrer des arguments pénétrants et importants. Je suis sûr qu'ils vont changer d'avis.
Numérama, Richard Stallman se rend en Tunisie pour exorciser Bull, un article de Guillaume Champeau. Donc voilà, ça c'est le côté comique de l'affaire. On voit Richard Stallman, on en a parlé la semaine dernière avec son disque dur sur la tête en guise d'auréole. Et donc, il va encore plus loin. Il fait des exorcismes.
Oui, alors là, c'est carrément assez amusant. Hein, donc, l'article ne le cache pas. Il y a une petite vidéo, il faut aller jeter un œil. Stallman, bah, il ne se prend pas au sérieux. Hein, ce mec, il est intéressant sur bien des points. L'autodérision, il n'hésite pas. Et là, il va exorciser Bull. Alors, c'est pour un sujet particulièrement sérieux. C'est lié, alors c'est en Tunisie, c'est lié à tout ce qui s'est déroulé pour mettre en place la surveillance des citoyens. Et Bull a participé à ça, a vendu du logiciel privateur.
Au travers d'une de ses filiales.
Certes, mais ça leur retombe dessus, hein, la preuve. Et donc là, Stallman, bah, il fait remonter cette info une fois de plus, en l'exorcisant. Donc le gars en face, il comprend pas trop, hein, ça c'est sûr que tout de suite, on n'a pas dû lui expliquer les tenants et les aboutissants. Mais c'est pas important, hein, de toute façon, c'est pour l'article, c'est pour nous que ça a été fait.
Voilà, sans doute. Oui, il précise également que ce système de surveillance vendu par Bull, c'était pas uniquement en Tunisie, mais également en Libye notamment. Voilà, et derrière il y a quand même des choses extrêmement sérieuses, hein. Je note également que sur la vidéo il y a un type avec un sourcil unique là, qui se rejoint, absolument fabuleux, enfin, c'est quelque chose de, voilà, faut absolument le regarder, c'est énorme.
Et moi je tiens à dire, c'est mal ce que tu fais parce que le physique c'est pas bien d'attaquer dessus,
mais on peut trouver ça très beau. Le Nouvel Observateur, Hollande et le numérique, un programme décevant alors qu'il y a beaucoup à faire, par Ludovic Penet. Bon, bah, ça rejoint ce qu'on disait ces derniers temps sur notamment la réponse à candidat.fr et Ludovic Penet, le site. Alors, il faut savoir que Ludovic Penet est un ancien administrateur de l'April. C'est quelqu'un qui était lié au PS pendant un bon moment, qui en est parti. Et là, il nous livre une analyse très intéressante et, bah, de quelqu'un qui connaît à la fois très bien le logiciel libre et très bien le milieu politique.
Oui, je dirais même c'est plus qu'une analyse. Là, il descend en flamme. Donc, l'article a été fait un petit peu avant le deuxième tour, mais il a été publié la semaine passée. Donc c'est pas grave, hein. Et donc effectivement il descend Hollande sur tout son programme qui est plus ou moins inexistant, et le fait que bah voilà, il n'y a pas eu grand chose, on n'a pas beaucoup parlé du numérique pendant la présidentielle, et que c'est bien dommage. Donc forcément il tire un peu la couverture à lui à la fin, hein. Il parle que voilà, le front de gauche du numérique, eux, ils ont réussi à faire des choses. On n'est pas forcément toujours convaincu. Ils ont une petite tendance à la centralisation qui n'est pas forcément compatible directement avec le net. Mais il y a plein de gens qui ont des idées intéressantes.
Alors, il y a comme une chose qu'il dit dans son article et qui contredit un peu ton histoire de centralisation, c'est qu'il fait remarquer le numérique n'a pas besoin d'un état stratège, donc typiquement ce genre de choses très, très front de gauche quand même, avec l'interventionnisme d'État et des plans quinquennaux, ce genre de choses, et qu'on est justement sur quelque chose d'assez différent de tous ces trucs traditionnels interventionnistes qu'on a pu connaître, et où effectivement Internet, le numérique, le logiciel libre, ça a quand même ce côté très auto-organisé ou auto-désorganisé, mais en tout cas un peu foutoir, et qu'on vit très bien, et que la dernière chose dont on a besoin, c'est effectivement une autorité qui vienne mettre de l'ordre là-dedans.
Je pense que ça fait partie de ces bonnes choses et de ces bonnes évolutions. Il y a des gens intéressants, et on en parlait tout à l'heure pour le Parti québécois, qui viennent de la société civile, qui viennent de nos milieux, hein, le logiciel libre, le milieu associatif, et qui vont faire percoler ces bonnes idées dans les partis politiques, même si, bon, la culture de chaque parti politique n'était pas forcément directement ouverte à ça, mais c'est pas grave, ces idées vont remonter, et on espère que ça va profiter au bien commun, et globalement à la société.
Lui évoque la grande absente du programme de Hollande, qui est la question de Dopi. Et on a une belle vidéo de Marine Le Pen, parce que sur ces questions d'Adopi, de neutralité du réseau, etc., et bah c'est le grand silence côté PS, côté UMP, bon, on n'en parle pas. Front de gauche, ils en ont parlé, etc. Mais la candidate qui a pris les positions les plus tranchées dessus, c'était quand même Marine Le Pen. Et là, lui, donc, tire la sonnette d'alarme en disant qu'il serait peut-être temps de se bouger là-dessus.
Oui, hein, je rappelle... Marine Le Pen serait la seule qui n'a pas été sous la charge des lobbies. Et pour des raisons, tout simplement, c'est qu'elle ne plaît pas, elle fait peur. Et pour des bonnes raisons, pour le coup. Mais ça n'empêche, les partis majoritaires et les partis en place, eux, ils sont les victimes de ces lobbies qui ne travaillent pas pour le bien commun, donc, et qui arrivent à faire passer leurs idées. On a eu plusieurs exemples et on en aura sûrement d'autres. Je me pose de plus en plus de questions de corruption, de fait, hein, entre la politique et l'entreprise. Mais bon... Ça ne bouge pas encore et je ne sais pas si ça va être le cas.
Je vais te dénoncer tirant en tôle. Bon, et à la semaine prochaine si t'es toujours en liberté.
Voilà, à la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.